France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le jeu des 1000 euros est installé cette semaine à Saint-Bardoux, près de Tain-l'Hermitage. Et c'est donc la Drôme qui est à l'honneur dans les carnets. Au programme aujourd'hui, des paillettes et une clochette. Paillettes, c'est le nom donné à un projet de recyclage de déchets en plastique par une entreprise qui fabrique du mobilier de bureau, notamment. Le plastique est broyé, transformé en paillettes avant de vivre une deuxième vie. Et puis clochette, c'est un camion, épicerie itinérante dans la vallée de Louvèze, du côté de Buis-les-Baronnies. Ce camion sillonne depuis cet été des villages isolés qui n'avaient aucun commerce et ça marche très fort. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et si vous installiez un canoë dans votre salon? C'est sympa, pas trop encombrant et pratique pour s'asseoir autour d'une table. Le canoë en question, peut-être dois-je le préciser, a été recyclé en chaise. Bonjour Thomas Merlin.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes designer et responsable de la Fab Unit, qui est une société coopérative installée à Eure, pas très loin de Cray, dans la Drôme. Vous fabriquez donc des objets avec des ressources locales et notamment des canoës, objets emblématiques de la vallée de la Drôme. Que devenaient avant vous les canoës qui ne sont plus en état de naviguer ?
Eh ben, ils étaient réparés par les loueurs et puis au bout d'un moment, après beaucoup de réparations, malheureusement, ils finissaient leur vie soit enfouis, soit incinérés. D'où l'idée de récupérer cette matière pour lui donner une seconde vie et voilà, et le réintégrer dans un nouvel objet.
Votre société coopérative, la Fab Unit, s'inspire, je crois, du modèle des Fab Labs, ces labos participatifs et citoyens. Qu'avez-vous en commun avec un Fab Lab ?
En fait, à l'origine, le projet de la Fab Unit est porté par le 8 Fab Lab de Cray, donc c'est un Fab Lab. Et vu qu'on avait un objectif qui était un petit peu différent, le Fab Lab, on va prototyper des idées, voilà, développer des projets. Et nous, on est un peu la brique d'après où, à partir d'une idée et d'un prototype, là, on va essayer de fabriquer un objet en série pour pouvoir répondre à des besoins concrets du territoire sur lequel on est.
Et la chaise, issue du canoë, est l'un de ces objets en série. Est-ce que vous êtes attaché, Thomas, à l'idée que la vie précédente de l'objet soit encore visible d'une façon ou d'une autre ? Est-ce qu'on voit que la chaise a été un canoë ?
Eh ben ma foi, vu les coloris qu'ont nos objets...
C'est bariolé, en effet.
C'est ce qui trahit, on va dire, la vie antérieure des objets. Mais c'est ce qu'on aime raconter aussi, c'est que du fait qu'on part des objets existants de notre territoire, comme avant, on pouvait avoir des marqueurs comme ça dans les objets qu'on pouvait produire sur un territoire parce qu'on avait de la terre locale, parce qu'on avait des extractions de métal, etc. Et ben nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la colorisation qu'on a dans nos objets, elle vient des déchets qu'on produit sur notre territoire. Mais du coup, en les reconcevant et en leur donnant une nouvelle forme, on les réintègre. Mais en même temps, on a la lecture de l'objet du passé et ça, c'est assez intéressant.
La raison d'être de votre atelier, c'est de créer un circuit court de l'objet, parce qu'il ne suffit pas de produire localement. Il faut aussi que la matière première soit locale. Et si c'est un déchet, c'est encore mieux.
Exactement, c'était un peu le parti pris de départ. On s'est dit, si on fait un atelier pour produire localement, il faut savoir qu'en effet, la plupart du temps, les matériaux qu'on utilise, ils viennent de loin. Et donc, là, l'idée, c'était d'aller encore plus loin en se disant, on va fabriquer avec de la matière locale, mais si c'est un déchet, eh ben, c'est encore mieux. Donc, tout le challenge, il était là. Et voilà, on a réussi à montrer maintenant, au bout de 4 ans, qu'on arrivait à faire vraiment des choses avec un peu de créativité et d'envie, de bousculer un peu les codes.
Vous portez un nom de magicien, Thomas Merlin, et vous transformez les canoës en chaises. Est-ce que c'est une évidence dans ce métier de designer d'utiliser les déchets comme ressource ?
Non, c'était pas une évidence, mais de par ma pratique du design auparavant, j'étais arrivé à une quête de sens profonde dans mon métier. Et vu que le métier de designer, c'est un métier qui s'appuie vraiment sur le contexte d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans une raréfaction des ressources, qu'il y a beaucoup de gâchis qui a été lié à un peu à la magie, à ce boom de l'extraction des matières, mais maintenant on se rend bien compte que c'est un problème et que du coup les matériaux naturels, c'est important des arbres, etc., de les laisser dans les forêts, etc., et de faire avec ce qui est déjà là le plus possible. Donc le plastique, c'est pas un matériau que j'affectionne particulièrement au départ, mais c'est vraiment l'idée de se dire on va essayer de faire avec ce qui est déjà là, et puis voilà, essayer de montrer que on peut faire les choses un peu différemment avec un peu de volonté, de créativité.
Et sans baguette magique.
Et sans baguette magique. Avec beaucoup de travail et voilà, de recherche. Et oui, en effet, c'est compliqué parce que même si sur le papier, ça peut paraître un peu simple, il y a eu beaucoup d'étapes. Il ne suffit pas aujourd'hui, comme pour répondre à une commande, d'appeler un fournisseur pour être livré dans un matériau pour pouvoir fabriquer. Aujourd'hui, nous, notre base, c'est des déchets, donc il faut qu'on aille les chercher. Et voilà, donc cette partie amont de filière, construction de filière, c'est quelque chose qui est encore en construction et qui demande beaucoup encore de ressources, de temps. Et c'est ce qui fait pas mal de complexité aujourd'hui à gérer avec l'équipe et tout le projet qu'on a mené.
Vous portez aussi un projet intitulé Paillettes. En quoi consiste le projet Paillettes ?
Eh ben, c'est exactement ça, c'est l'amont de la filière. Parce que nous, on s'est construit en se disant, on va prouver qu'on peut faire quelque chose avec des déchets plastiques. Et on s'est dit, on va pas faire ça tout seul, c'est trop complexe. Donc, on s'est appuyé sur un réseau d'acteurs qui était déjà présent sur notre territoire. En l'occurrence, une ressourcerie aujourd'hui, une entreprise à but d'emploi. Et puis, on est aussi aidé par d'autres entreprises, associations et collectivités. Et du coup, l'ensemble du projet Paillettes, c'est l'amont de la filière, c'est-à-dire la collecte, le démantèlement et le broyage de ces déchets plastiques. Et en fait, ils arrivent sous l'état de paillettes, donc en petits copeaux à la Fabinite. Et c'est à partir de ces paillettes qu'on va pouvoir donner naissance à un nouvel objet. Donc typiquement, voilà, pour répondre à de nouveaux aménagements de bureaux, on peut fabriquer un lot d'une cinquantaine de chaises, des tabourets empilables. Voilà, on se place vraiment dans offrir un service de proximité pour les entreprises et les collectivités.
Fab Unite, c'est donc à Eure, dans la Drôme. Merci beaucoup, Thomas Merlin.
Merci à vous.
Et bonne journée. Au revoir.
Merci.
France Inter. Carnet de campagne.
Prenons des nouvelles de Clochette, à Montauban-sur-Louvèze, village d'une centaine d'habitants, pas loin de Buis-les-Baronnies. Il n'y avait plus aucun commerce depuis la fermeture de l'épicerie en 2022. Alors un collectif citoyen s'est constitué pour créer un commerce associatif et itinérant, le camion Clochette, pour desservir les petits villages de cette vallée isolée de Louvèze. On en a parlé l'an dernier dans les carnets. Bonjour Marie-Huvaine.
Bonjour.
Et je prends aujourd'hui des nouvelles. Vous êtes la cofondatrice du projet Clochette. Alors, ce camion ?
Eh ben, il est arrivé au mois de juin de cette année. Il a commencé sa tournée cet été. Très concrètement, donc on a aménagé le camion de façon à ce qu'on puisse déployer un bistrot éphémère sur les places de village où il n'y a plus de commerce. Et donc, on propose une épicerie de proximité avec des produits frais, des produits secs, des fruits et légumes, un maximum de produits locaux et bio. On a une buvette et on propose des assiettes du jour le midi et des planches à partager le soir. Et donc, on donne rendez-vous chaque semaine dans un village... on a une tournée hebdomadaire et donc toutes les semaines, on revient au même endroit dans les villages.
Alors, par quel village passez-vous précisément ?
On va à Montauban-sur-Louvèze, Sainte-Euphémie-sur-Louvèze, Montguerre, Mévouillon... et bientôt d'autres villages, on verra l'année prochaine.
Quand je vous avais donné la parole au printemps 2024, le financement n'était pas bouclé, hein, Marie. Est-ce que ça a été compliqué pour votre association ?
Comme toutes les associations et comme tous les projets, on a rencontré pas mal de difficultés, mais je pense qu'on a... Enfin, en tout cas, on a réussi à lever les freins les uns après les autres, et notamment les freins sur les financements, les freins techniques, etc. Et donc, on est très contents d'avoir pu démarrer. D'ailleurs, je remercie... tous les financeurs qui ont permis cette aventure de voir le jour.
Il y a eu des fondations, du mécénat d'entreprise ?
Oui, on a eu à la fois des financements publics, des financements européens, le département, l'État, les communes, et également des financements privés, comme par exemple la Fondation RTE, la Caisse d'épargne, et très dernièrement, OREP Mécénat.
Cette initiative a-t-elle d'autant plus de sens dans votre territoire, Marie, dans les Baronnies provençales, la Haute-Vallée de Louvèze ?
Oui, dans le sens où donc nous, la typologie du territoire, c'est qu'on habite un fond de vallée isolé avec une densité de population très faible. Et donc, on habite dans la montagne avec des petites routes sinueuses et des villages où on n'est pas nombreux. Le fait d'avoir un camion qui se déplace, ça permet d'avoir une zone d'intervention qui est beaucoup plus large et du coup de desservir plusieurs villages, d'aller au plus près des personnes isolées.
Oui, c'est un peu un cul-de-sac, hein, Montauban-sur-Louvèze.
Alors, c'est pas tout à fait un cul-de-sac, la route continue. On peut passer le col de Perty et aller à la Bourelle, mais effectivement, en tout cas, il y a une barrière avec la montagne qui ferme la vallée, quoi.
Est-ce que vous avez prévu de faire rouler le camion clochette toute l'année ?
Oui, là, on est en train de préparer la saison hivernale. Alors, ça va nécessiter des ajustements parce qu'on peut pas faire la même chose été et hiver en raison des conditions météorologiques. Mais on prévoit, en relation avec les communes, de maintenir une tournée de l'épicerie. Au moins un jour par semaine. Et on est en train de voir pour organiser la partie plus conviviale sur la buvette et les repas dans les salles des fêtes pour être au chaud.
Qu'est-ce que ça donne côté prix, le camion clochette ? Est-ce que vous parvenez à avoir une gamme de prix un peu variée ?
Oui, on a vraiment essayé de travailler une tarification pour qu'on soit le plus abordable possible et d'avoir des gammes de produits différents, notamment sur les produits de base. Par exemple, les pâtes, on a des pâtes bio un peu qualitatives et puis on a aussi des pâtes plus conventionnelles pour les gens qui veulent juste venir acheter un paquet de pâtes. Donc on essaie d'avoir des produits qui répondent à tous les besoins.
Si j'habite à Montauban-sur-Louvèze, le premier commerce est à Buis-les-Baronnies, hein, c'est ça, 25 km de route de montagne.
Oui, c'est ça.
Donc c'est vraiment indispensable, hein, sur le territoire, ce commerce itinérant.
En tout cas, ça rend bien service. Et c'est le retour que nous font les habitants. À la fois le service de l'épicerie et aussi finalement ce qui est essentiel, c'est la convivialité que ça apporte. Et cet été, on s'est vraiment rendu compte de ça. C'est qu'en fait, le rendez-vous convivial au camion pour boire une petite bière, manger un morceau de saucisson et surtout croiser les voisins, c'est devenu un rendez-vous presque habituel pour beaucoup de gens cet été. Et c'était vraiment très sympa.
Est-ce que vous diriez que ça a marché encore mieux que ce que vous imaginiez ?
Oui. Franchement, cet été, on s'est un peu fait déborder, même pour tout vous dire, on avait prévu, je pense, de faire 15, 20 assiettes le midi, les grands jours. Et en fait, il y a certains villages où on s'est retrouvés à faire 40, 45 assiettes certains midis. On a dû acheter des casseroles plus grandes parce qu'on n'avait pas prévu de faire autant de repas.
Je me souviens que le camion, c'était la première étape de votre projet Clochette. Vous souhaitiez avoir un lieu en dur, hein, un endroit qui serait à la fois là aussi une épicerie et un lieu de vie. Est-ce que c'est toujours d'actualité ?
C'est toujours d'actualité, mais pour le moment, on n'a toujours pas de pistes concrètes pour pouvoir sédentariser le projet. On travaille avec les communes déjà pour pouvoir s'installer de façon plus durable au niveau des locaux logistiques, parce que le camion, il a besoin d'une base arrière logistique pour pouvoir fonctionner. Donc ça, ce sera déjà une première étape. Après, on a du coup les salles des fêtes pour cet hiver, mais effectivement, on continue de chercher un endroit où se sédentariser un jour.
Merci beaucoup Marie Huven et bravo pour tout ça. Le camion clochette, c'est donc dans la vallée de Louvèze, dans la Drôme. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup Dorothée Barba.